Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar. Un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. Aujourd'hui, on vous présente l'initiative Les Solutions gourmandes, un projet en sécurité alimentaire développé dans la MRC du Granit. Je suis très heureux d'être en compagnie de Monique Ferrivon-Lenoir, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de la MRC du Granit, et de Véronique Mercier, chargée de projet à la CDC. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pourriez-vous d'abord vous présenter et nous dire comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
Je m'appelle donc Monique Ferrivon-Lenoir, je suis française d'origine et psychologue de formation. Je suis arrivée au Québec en 2004. Et j'occupe donc les fonctions de direction générale à la CDC du Granit depuis 2012. Donc, moi, j'ai toujours été sensible à la problématique de l'exclusion sociale et de la pauvreté. J'ai à cœur l'équité sociale, la justice sociale. Donc, dans le cadre de ma fonction, je m'accomplis complètement. C'est pourquoi j'aime beaucoup le travail que je fais.
De mon côté, je suis avant tout une passionnée de la vie, puis je dirais plus particulièrement de tout ce qui touche à l'alimentation, donc du jardinage jusqu'à la cuisine. J'ai d'ailleurs animé des ateliers de saine alimentation dans les écoles et les garderies au cours des dernières années. Je suis aussi une passionnée par les projets. Donc, j'ai monté différents projets dans plusieurs secteurs d'activité au cours des dernières années. Puis, depuis novembre dernier, j'ai démarré le projet des solutions gourmandes avec la CDC.
Bien, on va explorer justement votre projet, les solutions gourmandes. Est-ce que vous pourriez me dire d'abord comment cette idée-là vous est venue?
Bien, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis 6 ans. À l'époque, j'avais rencontré une de mes collègues, directrice à la CDC de Nicolet Yamaska, qui avait initié un projet qu'elle avait appelé les carottes, la carotte joyeuse. C'était un projet en sécurité alimentaire. Et je me suis dit à partir de ce moment-là que c'était un projet qui était facilement transposable dans la MRC du Granit, parce que nous étions aussi une MRC rurale et que nos problématiques se ressemblaient. Donc j'ai gardé cette idée en tête parce que j'avais un gros projet que je voulais terminer. Donc ça s'est terminé en juin 2019. Et là, je me suis dit, bon, je peux me lancer dans le projet en sécurité alimentaire. Donc, c'est là où j'ai embauché Véronique. Et je vais lui laisser la parole pour qu'elle vous explique les grandes lignes de ce projet.
Bien, en fait, le projet comporte plusieurs volets. Dans un premier temps, nous récupérons la nourriture invendue dans les épiceries, chez les producteurs ou encore les entreprises de transformation alimentaire. On cuisine ensuite des repas congelés avec ces denrées et des produits qu'on achète localement. Puis, nous distribuons aussi les repas aux gens en situation de vulnérabilité qui nous sont référés par des intervenants communautaires, sociaux et scolaires. Par la suite, on donne aussi des repas gratuitement au Frigo Don, notre frigo libre-service, puis à la Banque alimentaire du Centre d'action bénévole du Granit. On a également un autre volet au projet qui est celui de la réinsertion socio-professionnelle. Donc, on accueille en cuisine des stagiaires du Centre de formation aux adultes, puis de l'école secondaire de la région. Puis, on accueille aussi des bénévoles qui veulent venir nous aider en cuisine.
On parlait tout à l'heure de collaboration. Comment le projet est-il accueilli par les partenaires du milieu?
Bien, c'est un projet d'envergure. Puis comme tous les projets d'envergure, ça demande du temps. C'est un travail de longue haleine, mais qu'on a commencé bien avant le projet. C'est-à-dire que cette mobilisation, nous, on la cultive dans le granit depuis des années. C'est vrai qu'il y a des événements très malheureux qui ont également boosté un petit peu notre collaboration, nos concertations, hein, comme ce qui s'est passé en juillet 2013 avec l'accident ferroviaire de Lac Mégantic. Mais ça nous a soudés comme communauté et ça a provoqué finalement des liens multisectoriels très forts entre nous. Donc on est une petite communauté, on se connaît, on a eu des succès ensemble, on a eu des défis ensemble. Donc tout ça, ça fonde des relations solides, ce qui fait que lorsqu'un projet naît, bien c'est pas très difficile de remobiliser du monde autour de ce projet, surtout si on a la crédibilité qui est déjà avec nous depuis plusieurs années. Donc là, c'est très important. Et puis, je pense que le succès appelle le succès. Si on fait un projet qui a du succès, ensuite, pour remobiliser le monde, c'est beaucoup plus facile. Parce que les gens se disent, bon, bah, ça va marcher, c'est sûr, on va y aller avec elle. Et puis aussi, quand on parle de mobilisation aussi citoyenne, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque un projet comble un vide, eh bien, ça se sent tout de suite. Parce que automatiquement, nous n'avons pas beaucoup à solliciter les gens pour qu'ils viennent nous aider. C'est le cas pour les solutions gourmandes. C'est un projet quand même qui n'a démarré que le 12 mai 2020. Nous sommes fin août et nous avons déjà une banque de bénévoles, des gens qui sont venus spontanément nous offrir leur aide. Nous avons des circuits de distribution qui commencent à bien s'implanter, des partenariats avec les écoles, avec les organismes communautaires qui se sont faits presque tout naturellement. Donc, c'est ça. Quand un projet répond à un besoin, on le sent tout de suite, ça démarre sur les chapeaux de roue.
Véronique, comment s'organise concrètement le travail avec les partenaires locaux?
Bien, comme le disait Monique, en fait, ça a été facile de mobiliser les gens autour de ce projet-là. Donc, dès le départ, on avait le Centre d'action bénévole du Granit qui était avec nous, qui nous a aidé à démarrer le projet, qui nous a fourni tout le fonds de cuisine nécessaire au démarrage, puis avec lequel on garde un partenariat qui est vraiment intéressant. Là, ils nous donnent la nourriture. Nous, en échange, on leur remet des plats préparés pour les paniers de la banque alimentaire. Donc, c'est super intéressant. Puis, on a des partenariats aussi avec les épiciers. Certains épiciers qui, chaque semaine, nous donnent leurs invendus. Puis, avec des producteurs maraîchers qui viennent, eux aussi, spontanément, nous offrir des denrées qu'ils ont en trop, qu'ils réussissent pas à vendre à leurs clients. Donc, on est aussi en étroite collaboration avec les organismes communautaires de la région, puis avec les intervenants psychosociaux qui nous réfèrent la clientèle ici aux Solutions gourmandes. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a un comité multisectoriel qui chapeaute le projet depuis le tout début, puis qui est composé d'acteurs de différents secteurs, puis chacun avec son expertise apporte des éléments essentiels au projet.
Et ultimement, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer avec ce projet-là?
Bien, moi, j'ai un but avec les solutions gourmandes qui est de nourrir convenablement chacun des citoyens de la MRC du Granit. Ça fait déjà vraiment longtemps que j'œuvre en alimentation, que je donne des formations, que j'essaie par différents moyens d'outiller les gens à bien se nourrir. Puis je pense que ce projet-là fait partie de ce grand ensemble-là. Puis je crois qu'en 2020, là, tout être humain devrait pouvoir se nourrir convenablement et à sa faim.
C'est quoi le bénéfice des solutions gourmandes pour le développement des communautés locales?
Comme vous le voyez, notre projet comporte plusieurs volets et il vise plusieurs objectifs. Donc le premier, pour nous, c'est effectivement réduire le gaspillage alimentaire, puis réduire aussi le nombre de tonnes de déchets, finalement, qui polluent l'environnement. Notre deuxième objectif aussi, c'est améliorer la santé des personnes vulnérables. En leur proposant une alimentation saine et de qualité. Ça, c'est aussi un but que l'on poursuit. On veut aussi contribuer à briser l'isolement social parce que notre cuisine est ouverte. Elle est ouverte au bénévolat. Donc, les personnes qui ont quelques heures à donner peuvent venir en donner aux solutions gourmandes et ça leur permet aussi de nouer de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est important pour nous. Ce qu'on souhaite aussi, c'est favoriser l'intégration socio-professionnelle des personnes qui ont plus de difficultés à s'insérer dans la société. Donc, en les mixant avec d'autres personnes et puis en leur proposant un travail enrichissant, noble, parce que donner à manger à autrui, c'est valorisant, ben, on espère pouvoir contribuer à leur réinsertion. Puis, on pense même à mettre en place un plateau de travail. Puis à terme, ultimement aussi, nous, ce que nous espérons, c'est pouvoir aussi lutter contre la désertification des municipalités rurales. Dans notre MRC, nous avons une ville-centre et 19 municipalités plus petites. Et on s'aperçoit que les services de proximité, dont les épiceries, ont tendance à fermer, à avoir beaucoup de mal à survivre. Et lorsqu'une épicerie ferme, eh bien, ça induit beaucoup de problématiques pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de transport pour venir à la ville-centre. Donc nous, ce que nous espérons, c'est pouvoir développer avec ce projet des solutions pour permettre à ces personnes d'avoir une alimentation plus équilibrée avec des produits frais.
Monique, j'aimerais savoir qui compose la clientèle des personnes vulnérables pour la CDC?
C'est très large. C'est très large parce que ça peut être aussi bien des personnes aînées qui n'ont plus le goût de cuisiner, hein, ça arrive, ou des personnes qui ont subi des opérations qui les rend invalides pendant un certain temps. Donc ça aussi, ça peut être aussi des personnes dont la santé mentale est précaire, des personnes qui ont des handicaps aussi physiques ou intellectuels. Puis ça peut être aussi des gens qui vivent des situations de pauvreté et qui ont de la difficulté à pouvoir se nourrir sainement. Parce qu'on le sait très bien, dans les épiceries, ce n'est pas les fruits et les légumes qui sont les moins chers.
Non, effectivement. Et dites-moi, est-ce que vous avez eu recours à des innovations ou des nouvelles façons de faire dans votre projet?
Bien, je dirais plutôt que nous visons la consolidation des bonnes pratiques, et notamment les bonnes pratiques en matière de concertation multisectorielle. Ce qu'on s'aperçoit dans tous les projets que l'on a menés, c'est que le succès vient souvent de la réunion de forces différentes. On a tous des compétences, on a tous des expériences, on a tous des réseaux. Quand on les met en commun, ça donne une force épouvantable à la communauté et puis au projet. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est l'atténuation du travail en silo. Et ça, on le voit parce qu'aujourd'hui, lorsque on travaille avec tellement de mondes différents sur ce projet, les solutions gourmandes, on s'aperçoit que on se parle d'égal à égal. Ce n'est pas le système de la santé qui s'adresse à l'organisation communautaire. C'est Magali qui parle à Véronique. C'est Mathieu qui parle à Monique. C'est très différent et ça donne une force au projet inimaginable. Lorsqu'on a réuni pour la première fois le comité multisectoriel, j'avais posé une question pour le tour de table. Je leur avais dit, qu'est-ce que vous pourriez apporter au projet? Puis je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et j'ai été très, très impressionnée par tous les commentaires apportés par les gens, puis toutes les idées. Chacun ayant dans son milieu un poste, bien sûr, et un emploi, connaissait très bien les ressources de son milieu et nous les ont offerts. Donc, à l'issue de cette première réunion, on savait déjà beaucoup mieux sur qui nous pouvions compter, puis c'était extraordinaire. Donc ça, c'est très important pour nous, éviter le travail en silo et puis consolider nos acquis.
Et qui sont les partenaires des solutions gourmandes?
Oui, en fait, les membres qui composent le comité multisectoriel sont le Centre d'action bénévole du Granit, la Constellation du Granit, le Centre des femmes, l'Ensoleillé ressources communautaires en santé mentale, l'équipe de proximité, des intervenants psychosociaux du CIUS du Granit, un citoyen retraité de l'enseignement hôtelière, une entreprise en transformation alimentaire, un producteur agricole, Commerce Lac-Mégantic, Intro au travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit et le Centre de formation aux adultes du Granit.
Wow! Je comprends quand vous dites qu'il y a beaucoup d'expertise sur le comité. Quel comité?
Puis on est toujours bien ouvert à recevoir des nouveaux membres également.
Avis aux intéressés? J'aimerais savoir qui peut bénéficier des plats préparés par les solutions gourmandes?
En fait, on fait affaire aussi bien avec les gens qui viennent sur place que des organismes communautaires. Il y a des organismes qui nous appellent, qui eux veulent avoir des repas directement dans leur organisme pour leurs membres. Donc, à ce moment-là, on leur prépare une commande, on se donne un rendez-vous, ils viennent chercher la commande ici. Puis, généralement, ils vont venir une fois par semaine. pour leurs membres. Puis sinon, c'est des gens qui nous sont référés soit par ces organismes communautaires-là ou par d'autres intervenants sociaux. Puis à ce moment-là, les gens nous appellent, on prend rendez-vous avec eux, puis ils viennent directement à la cuisine pour recevoir leurs plats. Ils ont un maximum de 3 repas principaux par semaine qu'ils peuvent acheter. Puis sinon, en dehors de ça, ils peuvent prendre des soupes, des collations aussi.
Et comment calculez-vous les coûts des portions?
Les prix sont très modiques. Par exemple, pour une portion, c'est 1,50 $. Donc, je dirais que c'est très abordable, mais on a tenu quand même à ce qu'il y ait des prix associés à la nourriture et que les personnes aient la capacité aussi d'être un client comme un autre, finalement. Une question de dignité de la personne, je pense, qui est importante aussi. Et puis, c'est aussi une façon de faire pour rendre l'échange agréable. C'est-à-dire que la personne vient chercher des plats, mais elle a la possibilité d'en choisir sur un menu, un petit peu comme une cantine finalement qui propose un menu à l'extérieur. Et puis, il y a un échange qui est d'égal à égal. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est pas de la charité, c'est vraiment un acte volontaire qu'on souhaite instituer, puis que l'expérience soit bonne de part et d'autre.
Et d'où vient la nourriture que vous utilisez?
Les épiciers. On travaille avec des épiceries qui, chaque semaine, nous remettent, dans le fond, leur invendu. Puis les producteurs agricoles, qui, surtout maraîchers, qui nous apportent les surplus des champs, les légumes. Puis on a aussi des entreprises de transformation alimentaire qui, des fois, ont des produits qu'ils ne peuvent pas nécessairement vendre en épicerie pour X raisons. Donc, ils nous les envoient ici, puis nous, on veille à leur transformation.
Alors, ce qui est important aussi de rajouter, je pense, c'est que tout ce qui est produit viande, poisson, œufs, on les achète. Parce qu'il y a des règles sanitaires qui sont quand même très importantes. Et ni nous, ni les épiciers, ni les commerçants ne veulent se risquer à rompre une chaîne de froid, par exemple, ou avoir des problèmes sanitaires. Donc, tout ce qui est d'origine animale, nous l'achetons.
Oui, je comprends. Et concrètement, comment ça se passe quand vous recevez un don de nourriture?
OK, donc quand ça arrive, la nourriture, en fait, souvent ça arrive en grande quantité. On parle de kilogrammes de nourriture, donc ça peut être 50 kilogrammes de courgettes qui nous arrivent un matin. Donc, la cuisinière doit faire preuve de créativité. Souvent, bon, là, ces temps-ci, des stagiaires qui sont avec elle en cuisine, mais quand je sais que je... Bon, des fois, c'est moi qui amène la nourriture, des fois, c'est les producteurs qui viennent la porter directement, mais quand je sais qu'il y a un bon arrivage de nourriture qui s'en vient, j'essaie de trouver des bénévoles pour avoir de l'aide en cuisine pour qu'on puisse transformer rapidement la nourriture. C'est sûr qu'on peut pas faire... On peut pas cuisiner les repas immédiatement, nécessairement, avec cette nourriture-là, donc on stocke. On en sache, on congèle, on déshydrate pour pouvoir éventuellement faire des recettes avec ces denrées-là.
OK. Donc, j'imagine que le rôle de la cuisinière est pas mal important.
Le rôle de la cuisinière est primordial, en fait, dans le projet parce que ça demande énormément de créativité et aussi d'efficacité. Donc, la cuisinière, elle ne peut pas se poser 50 questions. Là, le matin, ça arrive, il y a des courgettes, il faut faire quelque chose avec les courgettes. Puis, elle a aussi à travailler avec différentes personnes en cuisine. Donc, il faut qu'elle soit capable de déléguer les tâches puis d'avoir un bon calendrier de production là, pour s'assurer que tout est fait dans le temps requis. Donc, oui, ça demande certaines habiletés, mais on est chanceuse ici aux Solutions Gourmandes. On a trouvé une excellente cuisinière.
Parce qu'en plus d'être une excellente cuisinière, c'est une excellente personne. Donc ça, c'est important aussi parce qu'effectivement, il faut qu'elle développe une certaine capacité à accueillir toutes sortes de personnes sans problème finalement. Donc là, c'est important pour nous d'avoir ce genre de personnes. Puis avec le temps, les semaines qui passent, on se rend compte qu'il faut augmenter le nombre de personnes en cuisine de façon fixe. Puis on va intégrer une adjointe à cette cuisinière pour venir un peu accompagner aussi les groupes qui vont travailler en cuisine avec notre cuisinière.
Comment votre projet pourrait être aussi une bonne solution pour réduire le gaspillage alimentaire?
Bien, c'est sûr que ça a été un peu le point de départ de ce projet-là, réduire le gaspillage alimentaire. C'est de là qu'on est parti. Puis, ben dans un premier temps, on se disait, on va approcher les épiceries. C'est ce qui nous semble. Ben, on était l'hiver aussi, là. C'est ce qui nous semblait le plus réaliste. Puis, on savait qu'ailleurs, ça se faisait, d'aller voir les épiciers, de récupérer la nourriture, puis tout ça.
Et comment les épiciers ont réagi à votre proposition?
C'est pas l'aspect qui a été le plus facile au départ, puisque on pensait quand même, mais moi je m'imaginais que ça allait être simple, qu'on allait débarquer en épicerie puis qu'on allait dire bon ben on peut récupérer vos denrées que vous envoyez au compost, donc ils vont nous les donner. Mais non, ça a pas fonctionné exactement comme ça, parce que ben je me suis rendu compte dans un premier temps que faut d'abord et avant tout que les gens constatent qu'ils gaspillent de la nourriture, qui admettent qu'ils gaspillent la nourriture, puis qu'ensuite, qu'ils veulent poser un geste pour ne plus le faire. Donc, à partir du moment où j'ai compris tout ça, je suis allée avec une autre stratégie. Là, j'ai dit, bon, ben nous, on va valoriser vos pertes, dans le sens où c'est pas grave que vous gaspillez de la nourriture, et tout le monde en gaspille partout. C'est difficile à gérer, là, tu sais, dans une épicerie, c'est sûr que tu peux pas gérer au produit près tes quantités, puis tout ça. Donc, je les ai approchés en disant, bon, mais regardez, nous, on peut redonner une deuxième vie à ces produits-là, puis on calcule aussi le nombre de kilos de nourriture qu'on peut récupérer, puis pour vous aussi, ça peut être un aspect intéressant de votre entreprise de dire, mais regardez toute la nourriture cette année qu'on a envoyée à cet organisme-là, qui l'a récupéré, qui a fait des repas, qui a pu distribuer aux gens dans le besoin. Sinon, on l'aura envoyé au compost, voire même à la poubelle, là, chez certaines personnes. T'sais, là, on voit que le projet fonctionne bien. Donc, spontanément, là, les gens nous donnent plus de nourriture aussi. Puis, on est capable d'aller récupérer chez les gens qui ont des jardins, par exemple, qui ont des surplus de nourriture. Je pense que plus on va le faire, plus on va cultiver le réflexe aussi de « Ah, mais j'ai des surplus, j'appelle les solutions gourmandes. »
Et avez-vous des partenariats, disons, plus particuliers?
Mais écoute, il y en a un qui est évident, c'est un partenariat avec la polyvalente,
oui,
et le jardin communautaire, qui a été mis en place avec les élèves. Ils ont décidé cette année de nous donner toute leur production de légumes. Donc c'est très, très enthousiasmant pour nous parce que c'est la jeune génération. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Donc voilà, c'est un exemple de quelque chose qui est né du fait que le projet a commencé à sortir finalement sur Facebook, sur les médias sociaux, etc. Donc ça nous fait connaître. Puis ce que je voudrais rajouter au niveau du gaspillage alimentaire, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas les épiciers qui gaspillent le plus. Les gens qui gaspillent le plus, c'est nous. C'est monsieur, madame, tout le monde, c'est notre réfrigérateur. C'est la façon dont on fait les commissions, c'est la façon dont on utilise le contenu de notre réfrigérateur. Puis ça, nous avions l'intention, avant la COVID, de commencer à sensibiliser la population en mettant en place des conférences et des ateliers de sensibilisation, parce que ça passe aussi par ça, la conscientisation du gaspillage alimentaire. Puis malheureusement, avec la COVID, bon, ben, les rassemblements, c'est beaucoup plus difficile. Donc, mais on ne perd pas de vue ça. Puis je pense qu'on pourra le remettre au goût du jour, d'une autre façon peut-être, mais ça reste dans nos têtes.
On a un partenariat qui est super intéressant aussi avec le Centre d'action bénévole et le Frigo Don, qui est le Frigo Libre Service. Donc nous, les trois organismes, on fonctionne ensemble. Quand on récupère des denrées, quelqu'un vient nous donner de la nourriture ici ou on récupère chez un épicier, on voit ici ce qui est transformable. Si je récupère, exemple, des petits pots de yogourt individuels, ben, je les amène au frigo parce que c'est quelque chose qui va être intéressant pour la clientèle du frigo. Si je vois que c'est quelque chose qui est intéressant pour les paniers de la banque alimentaire, on les envoie là-bas. Donc, ça permet de maximiser les denrées qui nous sont données. Donc, chacun des trois organismes ont fait la même chose. Donc, c'est ça, ça bonifie. Oui, c'est une roue qui tourne.
Et actuellement, vous êtes capable de produire environ combien de repas par semaine?
En date d'aujourd'hui, en fait, on est capable de produire autour de 200-250 repas par semaine. Puis, avec l'ajout, en fait, là, on ajoute une journée de production plus une deuxième personne en cuisine. Donc, on va être en mesure de pouvoir augmenter la production là, dans les semaines à venir, puisque la demande grandit aussi.
Je crois savoir que votre projet est rendu possible, notamment grâce à la contribution financière de la politique gouvernementale en prévention en santé et du CIUSSS de l'Estrichus. Et je me demande, est-ce qu'il y a d'autres aides sur lesquelles vous pouvez compter pour développer les solutions gourmandes?
On est tombé dans une bonne période, je dirais, parce que c'est quand même une préoccupation globale, la sécurité alimentaire. Ça touche énormément les gens et puis les ministères sont sensibles à ça. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de programmes qui permettent justement à des projets comme le nôtre de s'installer. Ensuite, eh bien, il y a tout ce qui peut effectivement contribuer à améliorer cette base-là. Donc, on a effectivement les dons. Donc, les dons citoyens, les dons de fondation aussi, ça nous arrive aussi. On a également donc mis en place des campagnes de sociofinancement. Et on développe aussi un petit volet d'économie sociale avec des produits que nous allons acheter et vendre au bon prix, qui vont nous permettre donc d'avoir un petit chiffre d'affaires. Bon, mais tout ceci, c'est comme un mijoté, hein, c'est-à-dire qu'il nous faut un petit peu de tout pour que ce soit bon.
En espérant que ça va être aussi bon que les plats que vous préparez. Et il y a une chose qui m'intrigue, comment faites-vous à la CDC pour choisir dans quel projet vous allez investir de l'énergie?
Quand je constate qu'il y a un besoin dans la communauté, j'essaye de voir déjà s'il n'y a pas des partenaires dont c'est la mission, pour éventuellement voir avec eux s'ils veulent le démarrer eux-mêmes, ou bien s'ils veulent le faire en collaboration avec moi. Puis en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, depuis que je suis arrivée, j'ai accompagné plusieurs projets. Donc, quelquefois, ce n'est pas moi qui initie. Ça a été le cas, par exemple, pour la maison de fin de vie, la cinquième saison, donc, qui est une maison de soins palliatifs, qui est née d'un besoin citoyen, donc un groupe de citoyens qui ont vraiment tout fait pour que cette maison existe. Ils sont venus à la CDC pour demander un appui, un soutien. Donc là, la CDC s'est raccordée à ce projet-là pour les soutenir financièrement et même pour leur apporter une certaine visibilité. Mais pour d'autres projets, bon, comme par exemple le Concerto, qui est un projet d'immeuble pour des loyers à prix modique avec des locaux pour des organismes communautaires, eh bien là, c'est une idée qui m'est venue suite à une étude qui a été lancée sur les besoins en logement et en habitation dans la MRC du Granit. Et comme personne ne voulait être porteur du projet, mais que plusieurs voulaient collaborer au projet, ben on a créé une sorte de comité de pilotage qui a fait que le projet est venu au monde et a été inauguré en juin 2019. Donc c'est ça à chaque fois. C'est à chaque fois, il y a des besoins. On regarde si ça ne peut pas être pris en charge par quelqu'un qui existe déjà. Puis sinon, ben on collabore ensemble.
Et pour finir, j'aimerais voir avec vous, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui commence dans le milieu du développement des communautés ou de l'action collective, ça serait quoi?
Mais moi, j'aurais un mot, ce serait cultiver vos réseaux. C'est important de voir en chacun des partenaires le meilleur de lui-même pour pouvoir justement bâtir sur cette fondation et puis construire des relations de confiance, de réciprocité. Puis, ne pas hésiter à être reconnaissant. Moi, je pense que la bienveillance envers les uns et les autres, c'est une des clés du succès. Ne pas juger l'autre, ne pas avoir d'a priori, et s'appuyer sur ses forces pour bâtir ensemble quelque chose de formidable.
Et j'aimerais ça qu'on termine notre entretien par la phrase que j'ai vue d'inscrite sur le mur de votre cuisine.
Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Véronique Mercier et Monique Ferrivon-Lenoir, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter ce beau projet-là et on vous souhaite bonne chance pour la suite.
C'était un plaisir pour tous les deux.
Merci.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.